La saga de la Maison de Savoie, une chronique de Pierre Cardona.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Je vous fais découvrir chaque semaine des personnages qui ont fait la richesse de notre belle Savoie. Pour continuer notre découverte de la saga de la Maison de Savoie et appelée Charles-Emmanuel II, elle se poursuit par Victor Amédée II de 1666 à 1732. Ce petit-fils d'Henri IV naît le 14 mai 1666 au château de Turin. Il est le fils unique de Charles-Emmanuel II et de Marie-Jeanne Baptiste, fille de Charles-Amédée de Savoie. Âgé de 9 ans à la mort de son père en 1675, c'est sa mère, qui est la sœur de l'épouse de Dom Alphonse VI du Portugal, qui assure la régence. Il semble que cet enfant fût de santé fragile. On croyait à chaque instant le voir s'éteindre. Un certain médecin, Petechia, après avoir longuement examiné l'enfant, prescrivit des grisinis et le poupon royal redevint fort et vigoureux et promit 100 ans de vie. Écrivit Jeanne Albert de Luynes, comtesse de la Verrue, dite la Dame de Volupté, dans ses magnifiques mémoires, dites à Alexandre Dumas, peint de lui un portrait en pied actuellement à Chambéry. En 1680, il refuse tout net d'épouser l'infante du Portugal, Isabelle, mariage voulu par sa mère et Louis XIV, arguant que les États de Savoie devaient être gouvernés par l'aîné de la Maison de Savoie. Sous la plume d'Alexandre Dumas, la comtesse de la Verrue, toujours elle, trace un remarquable portrait de ce prince, dont elle fut la maîtresse, après Mademoiselle Anne-Thérèse Canalis de Cumiam. C'était un prince adroit et fin jusqu'à la dissimulation. D'autres disent jusqu'à la ruse et la perfidie. Il mettait de l'orgueil à ne point être deviné, à voiler ses desseins, à jouer ses adversaires et même ses amis. Affectant une grande haine pour Louis XIV, le méprisant, même en cas particulier. Il imita en toutes choses, jusque dans les moindres louables, il était assez ladre dans ses façons, bien que généreux et grand dans ses idées. Son épée, si souvent victorieuse, était d'acier rouillé. Il défendait qu'on la nettoyât. La seule partie de son ajustement dont il prit soin était sa perruque et son chapeau. En 1690, lorsqu'il déclare la guerre à la France lors de la guerre de Ligue d'Augsbourg, on assiste à une scène surprenante au château de Turin. L'épée à la main, le duc annonce au prince assemblé qu'il lance ses états dans la guerre car la Savoie ne peut être humiliée par Louis le XIVe, fût-il le roi de France et qu'il lui faudrait recourir à l'impôt. Le prince de la Cisterne prend alors la parole. « Votre noblesse est riche. » Et nous autres grands seigneurs, nous avons les terres et des revenus considérables. Nous pouvons suffire à tout. N'est-il pas vrai, messieurs ? En un clin d'œil, les poches furent vidées. Toutes les bourses tombèrent au pied du trône. Avec les joyaux, les montres, les bagues, tout. Certains princes signent même des obligations à leurs souverains. Mais cela n'empêcha pas une nouvelle fois les Français commandés par Catina de débouler dans le Val-de-Fière et cette fois, ils s'emparent de Rumilly au sud et de Montmélian. Durant l'hiver 1691-1692, les Espagnols campent en Savoie et en 1692, le duc Victor Amédée reçoit de l'empereur le titre d'Altesse royale. L'année suivante, son Altesse royale contre-attaque vigoureusement grâce au prince Eugène Maurice de Carignan. Mais une méchante variole l'empêche de triompher pleinement. Il signe le traité de Turin qui assure 4 années de paix au duché. Le 9 avril 1694, le duc épouse sa cousine, la fille de Philippe de France, duc d'Orléans, la jeune Anne-Marie, et il décide de gouverner seul. Il a alors 28 ans. Entré dans le jeu des alliances en Europe, afin d'assurer ses intérêts et ceux du duché, il s'allie à la France. Marie, sa fille, aînée, Marie-Adélaïde au duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, avant de changer d'alliance. En 1701, il marie sa seconde fille, Marie-Louise, à Philippe V, roi d'Espagne. 2 ans après, alors que s'ouvre la guerre de succession d'Espagne, le duc s'allie au camp des impériaux. La citadelle de Montmélian est rasée et Louis XIV fait à nouveau envahir la Savoie. Plus tard, grâce aux victoires du prince Eugène Maurice de Carignan, son cousin, Victor Amédée récupère une partie du Briançonnais, le Montferrat et le royaume de Sicile au traité d'Utrecht, le 11 janvier 1713. Pendant toutes ces guerres, et durant son voyage en Sicile, qui dure une année, il laisse les rênes du duché à son fils, le comte de Piémont Victor Amédée. Voyant que ce dernier a très efficacement dirigé ses états, son Altesse royale le traite avec brutalité sur les conseils de sa nouvelle maîtresse, la comtesse de Saint-Sébastien, ex-demoiselle de Cumiana, revenue succéder à la comtesse de La Vérue dans le lit du prince. Il lui aurait dit, selon la dite comtesse, « Vous vous croyez un personnage parce que vous avez été un an sous la tutelle de mes conseillers, avec une ombre de pouvoir. Apprenez que je suis le maître et tant que vous vivez, vous n'êtes rien ici, entendez-vous. Rien que le premier de mes sujets le plus soumis. Et tenez-vous-le pour averti que vous avez encore de longues années à m'obéir entièrement. » Remercions Dumas pour ses pages savoureuses et on devine déjà ce jour-là les drames à venir. Le 2 décembre 1713, Victor Amédée est couronné par le roi de Sicile à Palerme. L'année suivante, il fait construire avec l'architecte Juvara le palais royal de Turin, ainsi que la basilique de Superga. Et en 1715, son fils héritier, qu'il tenait si mal en estime, Victor Amédée, meurt, de chagrin, dit-on, à la cour. La maladie inconnue l'emporte en une semaine. Le duc Victor Amédée a, semble-t-il, toujours voulu agrandir ses états. Il revêt, quelque part, d'une unité italienne. Il disait « L'Italie est comme un artichaut, il faut le manger feuille à feuille ». Espérant que tous ses sujets parleraient un jour la même langue, il regrettait que les Savoyards ne veuillent pas oublier le français, ce qui faisait que le roi de France les croyait toujours un peu ses sujets. En 1720, il échange la Sicile contre la Sardaigne et devient ainsi le premier duc de Savoie, roi de Piémont-Sardaigne. Passionné, il est également un grand organisateur. En 1723, les royales constitutions réglementent le culte catholique, les procédures civiles et criminelles, entre autres. Réformateur de l'éducation, il crée le Conseil d'État, met en place le cadastre, appelé communément MAP Sardes, pour bien faire rentrer l'impôt. Il est très affecté en 1728 par la mort de son épouse qui lui a donné 5 enfants, donc le futur Charles-Emmanuel III. C'est alors qu'il décide de reprendre à son compte le projet de son arrière-grand-père Charles-Emmanuel Ier de créer une crypte sous la basilique de Superga où seront réunis les princes et les princesses de Savoie, projet inauguré par son petit-fils Victor-Emmanuel III. Il épouse secrètement et nuitamment en seconde noce Anne-Thérèse Canalis de Cumiane, comtesse de Saint-Sébastien, qu'il fait marquise de Spino, avant d'abdiquer 2 jours plus tard, le 3 septembre 1730, à la surprise générale. À 64 ans, il se retire au château de Chambéry, alors selon lui en ruine. Il passe une partie de l'hiver à Saint-Alban, où il laisse de grosses dettes, mais insatisfait de la manière dont son fils mène ses états, il cherche à revenir au pouvoir. Profitant de la venue de son fils à Chambéry, où il est lui-même revenu, il monte avec son épouse un véritable coup d'État en août 1731, en essayant de revenir à Turin avant lui. Mais son cher fils, averti alors qu'il est à Évian, le précède dans la capitale et le place en résidence surveillée au château de Montcalieri. Après une seconde tentative du vieux duc, son fils se résout à le faire arrêter et le faire interner au château de Rivoli. Puis, rêvant de sa décision, il fait à nouveau interner son père au château de Montcalieri, où ce dernier meurt, laminé par les ans, le 31 octobre 1732. Il est inhumé dans la crypte de Superga, où un monument rappelle qu'il fut le fondateur de la basilique de Superga. Celle-ci, due au travail de Gian Battista Bernero sur le plan de Filippo Juvara, commémore la victoire du 8 septembre 1706 sur l'armée française, bataille dont le signal avait été donné de cette hauteur. À ses côtés repose son épouse, Anne d'Orléans, morte à 59 ans. On lira avec intérêt le tome 3 de la Royale Maison de Savoie par Alexandre Dumas. Nous devons à l'honnêteté historique d'avouer que les mémoires de la comtesse de La Vérue n'ont jamais existé que sous la plume d'Alexandre Dumas. La visite de la basilique et de la crypte royale de Superga s'impose pour qui veut un peu mieux comprendre la maison de Savoie. On y trouve également des portraits des papes. Quant au château de Montcalieri, il est aujourd'hui devenu une caserne de carabinieri. Cette chronique est tirée d'un livre de Michel Germain, président de la Société des auteurs savoyards, écrivain et historien. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et surtout, à une prochaine fois.